France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-10.
Et table ronde ce matin sur les manifestations d'étudiants pro-palestiniens dans les universités en France et aux États-Unis. Vos questions 01 45 24 7000 et sur l'application France Inter. Pour vous répondre et pour en parler, trois invités. Ici en studio, Hugo Micheron, maître de conférences et chercheur à Sciences Po Paris, spécialiste du djihadisme. Votre dernier livre, La colère et l'oubli, les démocraties face au djihadisme européen chez Gallimard. Roger Cohen, chef du bureau du New York Times à Paris, et en duplex, nous sommes avec Anne Muxel, sociologue, CNRS Cevipof, co-autrice avec Martial Foucault d'une jeunesse engagée, enquête sur les étudiants de Sciences Po 2002-2022, livre publié aux presses de Sciences Po. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Et merci, bonjour. Merci d'être à ce micro. En France, ces mobilisations pro-palestiniennes ont démarré à Sciences Po Paris, qui était bloquée vendredi dernier, avant de toucher lundi pendant quelques heures la Sorbonne, dont la cour a été évacuée par les forces de l'ordre. D'autres mobilisations ont eu lieu à Rennes, Menton, Saint-Étienne et dans les Sciences Po de Lyon, Dijon, Grenoble. Le temps de rassemblement, de sit-in ou de minutes de silence. Aux États-Unis, le mouvement est de plus grande ampleur. Et on va y venir tout de suite. Mais pour commencer, même question à tous les trois. Que disent, selon vous, ces mobilisations? Y voyez-vous un soulèvement classique d'étudiants ou quelque chose de nouveau se joue-t-il aujourd'hui? Hugo Micheron, il se trouve que votre salle de cours est juste au-dessus de l'entrée de Sciences Po et que vous étiez en quelque sorte aux premières loges pour voir ce qui s'est passé vendredi. Alors, comment répondez-vous à cette question?
Oui, déjà, il y a plusieurs crises hein, en ce qui concerne Sciences Po qui s'entremêlent. Il n'y a pas simplement que la question d'Israël et de la Palestine. Il y a eu une question de gouvernance aussi, puisque Sciences Po est à temps de renouveler sa direction. Ce qui se joue déjà, à mon sens, de très important, c'est pas forcément une réimportation du conflit israélo-palestinien. On l'entend beaucoup. La réalité, c'est qu'on a une réimportation d'une certaine grille de lecture américaine de ce conflit sur le campus de Sciences Po et qui se caractérise notamment par la définition d'un camp du bien qui ferait face à un camp du mal désigné, si vous voulez, comme un ennemi et avec assez peu de choses entre deux, donc assez peu de nuances. Et ça, c'est un problème puisque cette dichotomie entre le camp du bien et le camp du mal qui était hier portée par Donald Rumsfeld et George Bush aux États-Unis, avant-hier par McCarthy, aujourd'hui est portée par des étudiants qui se classent plutôt à l'extrême gauche, mais qui ne fait pas plus dans la mesure. Et c'est là où, si vous voulez, à Sciences Po, qui est justement une école qui est censée apporter les outils pour penser de façon complexe ces enjeux, c'est là où il y a une question de fond, je veux dire, bien au-delà, quelle que soit la cause, là, il y a déjà un premier élément de discussion.
Donc on va y revenir. Si c'est importé de quelque part, c'est importé des États-Unis. On va y revenir. Anne Muxel, même question, quel regard portez-vous sur ce qui s'est passé à Sciences Po? Certains rappellent les manifestations d'étudiants contre la guerre du Vietnam, d'autres mai 68. C'est dans cette tradition-là où il y a quelque chose de nouveau?
Alors, il y a une tradition, évidemment, à Sciences Po et d'une façon plus large, parmi les étudiants des sciences sociales, hein, globalement, une tradition de manifestation, de mobilisation, de protestation, et particulièrement à Sciences Po, où se trouvent des étudiants qui sont plus politisés que la moyenne, qui sont aussi plus à gauche que la moyenne, hein, faut pas oublier qu'il y a vraiment une grande proportion d'étudiants de Sciences Po qui se situent à gauche et en ce moment, étant donné l'évolution du paysage politique à gauche qui se situe effectivement dans la mouvance de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, 55% des étudiants ont voté au premier tour de la présidentielle 2022 pour Jean-Luc Mélenchon. Donc il y a là, on voit bien, un terreau de protestation, de contestation, qui aujourd'hui se porte sur la question, sur le conflit israélo-palestinien, qui a quand même polarisé en France bien depuis longtemps les positionnements politiques comme les engagements, et qui s'inscrit aussi dans cette sensibilité aux droits humains, cette solidarité envers les minorités que l'on observe, hein, dans la jeunesse étudiante aujourd'hui, mais cela avec porté par une radicalité politique, encore une fois, qui est animée par des minorités d'étudiants à Sciences Po qui sont fortement politisées, fortement
minorités. Combien de personnes ?
Oui, minorité, parce que même sur les campus américains, on voit bien que par rapport à la masse des étudiants, il y a 15 000 étudiants à Sciences Po, minorité parce que les étudiants et les étudiantes qui bloquent Sciences Po, c'est une centaine ou 200 étudiants. Donc on voit bien, et la même chose même à Columbia, il y a les chiffres qui sortent, on voit bien qu'à chaque fois c'est classique, ce sont toujours des minorités agissantes, les plus politisées, les plus militantes, qui évidemment sont à la manœuvre des manifestations et des mobilisations.
Roger Cohen, beaucoup d'universités sont touchées par le mouvement aux États-Unis. L'épicentre de la contestation, c'est Columbia à New York, à UCLA à Los Angeles. Des affrontements se poursuivaient cette nuit entre manifestants et contre-manifestants. Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a dénoncé la semaine dernière la propagation d'un virus de l'antisémitisme sur les campus américains. Est-ce le cas, selon vous ?
C'est certain que le conflit s'étend, c'est même au Texas, Wyoming, etc. Et je crois qu'il est difficile de voir certains slogans à Columbia et ne pas voir ou percevoir là-dedans l'antisémitisme. On voit partout gloire aux martyrs. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces martyrs ? Souvent, c'était des actes terroristes. On voit ce slogan partout à Columbia, Zionism equals Nazism. Le zionisme égale le nazisme. Ce qui est attribué aux survivants de l'extermination de 6 millions de juifs en Europe, qui ont contribué à l'établissement de l'État d'Israël en 48, après le vote de l'ONU en 47, qui approuvait justement deux États, un Palestinien, un Israélien, attribué à eux les actes meurtriers et génocidaires des nazis. Donc c'est si on est un étudiant juif à Columbia, ou même si on est juif tout court, c'est assez difficile de ne pas voir dans ça. De l'autre côté, on dira non, c'est contre l'Israël, c'est contre le zionisme comme mouvement, mais c'est allé à un tel extrême. Oui, on chante tout le temps à Columbia, à d'autres universités, du fleuve à la mer, fleuve à la mer, c'est-à-dire tout le territoire. Donc maintenant, quand on parle de colonialisme vis-à-vis d'Israël, ce n'est plus le colonialisme qui existe, c'est sûr, dans la Cisjordanie. Non, c'est tout le bébé, c'est le truc entier, c'est la fin de l'État d'Israël. Or, si on est israélien ou si on est un juif dans le monde et on dit non, voilà, il faut mettre fin à l'Israël, on a un vrai problème.
Hein. Hugo Micheron, vous me disiez que parmi les slogans des étudiants, certains mettent directement en cause Sciences Po sur le mode Israël assassin, Sciences Po complice. On a pu voir également ces images d'étudiants brandissant leurs mains peintes en rouge sang, images qui ont choqué, car elles rappellent celles du lynchage de deux réservistes israéliens à Ramallah en octobre 2000. Ces images, comment vous les avez reçues ?
Oui, c'est très important de revenir là-dessus, parce qu'en fait, il n'y a pas de problème sur les manifestations en soi, il n'y a pas de problème avec les méthodes. Anne Muxel rappelait à l'instant très justement qu'il y a toujours eu des blocages dans la contestation estudiantine. Donc la question, ça doit être vraiment qu'est-ce qui s'exprime ? Et de ce point de vue-là, déjà...
Donc,
premier élément, déjà, Sciences Po, je pense que tout le monde pourrait être d'accord avec ça, n'est pas complice de la guerre à Gaza. Premier élément, c'est factuel, il faut le rappeler, et dire autre chose, c'est une aberration. Le deuxième élément, qui est beaucoup plus choquant, c'est cet épisode des Mains Rouges qui s'est produit donc la semaine dernière, en marge d'une manifestation rue Saint-Guillaume, en face de Sciences Po, et là, on a des étudiants, des militants, qui ont brandi les Mains Rouges, qui en fait fait directement référence en 2000, ce qui s'est passé à Ramallah quand deux Israéliens avaient été tabassés à mort avec un des tortionnaires qui a brandi ses mains couvertes de sang devant une foule en délire. Et donc, si vous voulez, ce geste qui mimique, qui fait une référence directe à cet acte qu'on retrouve dans les rues de Sciences Po aujourd'hui, c'est une glorification indirecte du meurtre de deux Israéliens. Et on le voit bien, le sous-texte, c'est mort aux Juifs, qu'on le veuille ou non, c'est ça qui apparaît de façon subliminale.
Même si les étudiants disent « nous ne connaissions pas cette affaire ni l'image de 2000 ».
Et ben voilà, c'est là où le prof, pardonnez-moi, qui est en moi, intervient. C'est que si des étudiants de Sciences Po, où justement on est dans le lieu où le débat doit s'élever, et donc ce lieu nous oblige, si des étudiants de Sciences Po ne connaissent pas les références des gestes militants qu'ils emploient, ben moi j'ai un problème, mais sur le fond intellectuel, si vous voulez, j'ai un problème, quelle que soit la cause, j'ai un problème avec ça. Et donc j'ai envie de dire, au-delà d'être des militants, de mauvais militants, ce sont aussi de mauvais étudiants. Et donc ça veut dire qu'il y a aussi une responsabilité au-delà des étudiants, je pense là du cadre enseignant. Moi, si j'avais pas d'étudiants parmi ceux-ci, mais par contre si j'en avais eu, je pense que on aurait repris un certain nombre d'éléments en classe, parce que là il y a une question de connaissance et on ne peut pas prétendre ignorer les symboles auxquels on se réfère, surtout quand on prétend défendre une cause importante, parce que sinon ça salit tout. Et si on accepte ce genre d'argument, ça veut dire que demain on ouvre la porte à d'autres manifestations avec d'autres slogans tout à fait aberrants, et donc on n'est plus dans un débat, on est dans du bruit et on est dans une foire d'empoigne. Et Sciences Po, c'est la tradition inverse de ça.
Que pouvez-vous nous dire sur le discours des étudiants sur la cause palestinienne entre l'appel à la paix et au cessez-le-feu, la revendication d'une solution à deux États, la haine d'Israël dont parlait Roger Cohen, l'antisémitisme au sens strict, quelle est la palette à Sciences Po?
Ben, on trouve tout ça, et je pense même encore plus de positions, parce que il faut le rappeler, évidemment, on parle de petits groupes, mais la question qu'il faut aussi se poser, c'est est-ce qu'on parle vraiment d'un discours? Et c'est là-dessus on arrive aussi sur le fond. Ce qu'on a vu s'exprimer, qui a été abondamment repris dans la presse, en fait c'est beaucoup de slogans, donc on est déjà sur quelque chose de moins développé qu'un discours, moins structuré, et en fait ce qu'on voit surtout, c'est une grille de lecture. On voit une grille de lecture qui est promue, et là-dessus, si vous voulez, autour de l'émotion légitime, lié à la guerre en cours à Gaza que produit ce conflit, on voit tout un tas de positions se positionner, mais ce qu'on voit aussi, et il faut pas être naïf là-dessus, c'est un certain nombre de groupes très structurés idéologiquement qui exploitent l'indignation légitime autour d'une guerre assez effroyable pour en fait faire passer des arguments auprès d'un public beaucoup plus large qui sont des arguments politiques beaucoup plus puissants. Et c'est là où on arrive typiquement sur l'épisode des Mains Rouges, où en fait des groupes qui savaient très bien quelle était la référence...
Quel groupe ?
Ben, typiquement, là depuis deux semaines, il y a une évolution. On a vu de nouveaux intervenants dans le conflit dans les universités françaises et donc aussi à Sciences Po. Par exemple, il faut citer, c'est pas du tout anodin, Khamenei, le guide suprême de la République islamique d'Iran, le chef d'État iranien, qui se définit depuis ce régime, depuis plus de 40 ans, comme étant en guerre contre l'Occident, hein, désignant la France comme un petit Satan, a tweeté il y a quelques jours, en début de semaine, un tweet de soutien au soulèvement, soulèvement dont la traduction en arabe, par ailleurs, est intifada. Donc, il a un soutien à ce qui se passait dans les universités européennes et américaines, en prenant comme image les photos de la rue Saint-Guillaume, c'est-à-dire des manifestations devant Sciences Po. Bon, vous voyez bien, là, on est carrément sur un système presque d'ingérence, et ce tweet faisait suite aux propos d'un individu qui lui-même se félicitait il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux d'avoir rencontré des officiels iraniens il s'était rendu dans son pays d'origine, et qui prétend avoir des équipes sur place dans les manifestations. Donc là, vous voyez, on n'est pas simplement que sur des étudiants de Sciences Po qui crient une émotion légitime, on est sur une instrumentalisation dans une période électorale en Europe et aux États-Unis par un régime qui se dit en guerre avec l'Europe et les États-Unis. Donc vous voyez, on est sur beaucoup plus. Et donc la Russie n'a pas le monopole de l'ingérence. On a aussi Iran, et on a tendance à l'oublier ces derniers temps que l'Iran est extrêmement actif sur ces sujets.
Réaction, Roger Cohen.
Je voulais simplement dire que j'étais à New York la semaine dernière et j'étais à Columbia. Je suis entré, c'est pas très simple, même comme journaliste, d'y entrer maintenant, et je crois en ce moment impossible. Mais j'ai vu une jeune femme avec une pancarte qui disait « Les brigades Al-Qassam viennent pour vous ». Et derrière, il y avait des drapeaux israéliens et américains. Or, c'est justement la brigade d'élite de Hamas qui a mené l'opération du 7 octobre, qui a tué environ 1200 largement civils en Israël. Donc il y a une sorte de... Donc on dit en gros gloire à Al-Qassam, et c'est assez fort, assez extraordinaire. Et puis le débat, comme Hugo le disait, c'est assez ahistorique. Enfin, il n'y a pas beaucoup de compréhension, il semble, de la situation dans laquelle l'Israël est né. Et on voit également l'englobement du conflit israélo-palestinien dans quelque chose de beaucoup plus large. Et c'est important, et c'est la lutte anticoloniale, anti-Occident, du Sud global, contre le racisme aux États-Unis. Et donc, c'est tout un mouvement dans les esprits des gens.
En tout cas, ce blocage de Sciences Po a suscité un torrent de réactions politiques, parfois très virulentes. Gérard Larcher parle de Sciences Po comme d'un bunker de l'islamo-gauchisme. Valérie Pécresse, qui suspend le financement de la région, critique, je la cite, une minorité de radicalisés appelant à la haine antisémite, instrumentalisée par la France insoumise et ses alliés islamo-gauchistes. Le chercheur Gilles Kepel estime que Sciences Po a capitulé face au woko-mélenchonisme, fin de citation. Anne Muxel, est-ce vrai? Est-ce l'idéologie majoritaire à Sciences Po?
Alors, je crois que là aussi, il faut quand même garder à l'esprit que si on est à Sciences Po, il faut développer un esprit de nuance. Tout Sciences Po ne se reconnaît pas non plus, et tous les étudiants de Sciences Po ne se reconnaissent pas dans ce qui est porté de façon extrêmement radicale, voire parfois avec tous les débordements dont on vient de parler. Et cette instrumentalisation politique, je pense que Hugo Micheron avait tout à fait raison de rappeler cela. Il y a une instrumentalisation évidemment politique de ces mouvements qui se font à Sciences Po comme dans les universités américaines. Ce n'est pas du tout l'ensemble des étudiants. Rappelons qu'il y a 15 000 étudiants à Sciences Po, mais qui ont du mal à se faire entendre, tant dans une période de manifestation, de blocage, d'extrémisation, on va dire, des mobilisations, eh bien, il est difficile de faire entendre des propos plus nuancés. Je pense que, par contre, la majorité des étudiants à Sciences Po partagent cette sensibilité pour la souffrance et la compassion pour ce qui se passe à Gaza, bien sûr, hein, comme beaucoup de personnes.
À Columbia
beaucoup
aussi,
de personnes.
Je dirais.
À Columbia aussi. Beaucoup d'étudiants peuvent être en solidarité envers les minorités, mais sans pour autant remettre en cause l'État d'Israël et suivre effectivement ces propos anti-sionistes, voire anti-sémites, qui sont portés par certains étudiants et certaines étudiantes. Donc oui. Je crois qu'il faut, quand par rapport aux sanctions, par rapport aux propos qui sont renvoyés par certains dirigeants politiques, par ces menaces aussi de couper certains financements, on peut les entendre, on peut les concevoir, mais on ne peut aussi que les regretter, parce qu'en fait, en ce moment, ce dont Sciences Po a le plus besoin, c'est d'être soutenu, que effectivement.
Et vous trouvez que c'est pas assez le cas?
Enseignante,
vous trouvez aussi... que c'est pas assez le cas, Anne Muxel?
En tout cas, rappeler qu'à Sciences Po, il y a effectivement beaucoup d'enseignants, de professeurs, mais aussi d'étudiants qui travaillent et qui croient à la pluralité, au respect des différences et effectivement à cette capacité que l'on se doit, nous, en tant qu'enseignants, mais aussi en tant que chercheurs, de fournir des outils conceptuels, des outils théoriques pour analyser analyser au mieux et avec le plus de pertinence et de nuances les situations. Et effectivement, quand on voit les mots, Hugo Micheron le rappelait tout à l'heure, des mots, des slogans par exemple, je pense au mot génocide. On entend génocide à Gaza, mais un génocide, on apprend à nos étudiants qu'un génocide, eh bien, la définition d'un génocide, ça passe par un certain savoir historique, juridique, c'est très précis, un génocide. Ouais. Donc on voit bien que voilà, il y a quand même beaucoup d'étudiants qui ne se reconnaissent pas dans cette extrémisation à laquelle effectivement peuvent conduire certains combats politiques radicaux.
Aujourd'hui à 10h15 aura lieu pendant 2 heures dans l'amphi Boutmy un débat interne town hall à l'américaine où chaque étudiant pourra prendre la parole pour exprimer ses vues. Qu'en attendez-vous, Hugo Micheron? Qu'en espérez-vous? Un dialogue serein est-il encore possible à Sciences Po Paris ?
Oui, je pense qu'un dialogue serein est encore possible à Sciences Po. Je n'attends pas grand-chose du débat. Je pense que c'est si ça peut être un moyen de faire baisser la pression, tant mieux. Maintenant, je pense que l'ambition de Sciences Po, là, on est à un tournant en fait. Et il je relativise pas du tout ce qui est en train de se passer. Par contre, il faut pas tomber non plus dans une forme d'extrémité inverse. Mais c'est vrai qu'on est à un tournant. Et l'ambition pour Sciences Po, c'est pas, je crois, d'être un petit Harvard. Et je le dis avec tout le respect, j'ai moi-même enseigné à Princeton.
Alors expliquez-nous.
C'est pas d'être un petit Harvard, c'est d'être un grand Sciences Po. C'est-à-dire, c'est pas l'amphi Gaza, si vous voulez, c'est l'amphi Boutmy. Et du nom du fondateur de l'école libre des sciences politiques. Juste après la défaite, la capitulation face à la Prusse, qui était perçue avant tout comme une défaite intellectuelle, où il fallait reconstruire une élite. Et école libre, libre de quoi ? Des dogmatismes politiques, religieux. Ça, c'est, je crois, c'est pas simplement l'ambition de Sciences Po, c'est son ADN. Et ça nous oblige. Ça m'oblige personnellement, en tant qu'enseignant dans cette école, dans la période actuelle, il faut aussi savoir de quel bois elle est faite. Et ça, vous voyez, pendant longtemps, Sciences Po a cherché à s'insérer dans la mondialisation des universités en devenant une petite Ivy League en Europe, une petite université, si vous voulez, de référence américaine en Europe. Et je pense que là, on arrive un peu au terme de ce cycle-là. Il faut en ouvrir un nouveau. Et Sciences Po est extrêmement armé. Il y a ce que se passe, je parle évidemment sous le contrôle de Roger Cohen ici, mais il y a, du fait de la situation sur les campus américains, beaucoup de profs de réputation internationale qui se posent la question de savoir si leur avenir professionnel de l'excellence académique est encore aux États-Unis. Sciences Po peut accueillir un certain nombre de gens qui mettent l'excellence académique au cœur de leur projet de chercheur et d'enseignement. Et là, si vous voulez, c'est aussi un projet porteur pour Sciences Po. Donc d'une crise peut émerger beaucoup de belles choses.
Roger Cohen, un article du New York Times donnait hier la parole à un certain nombre d'étudiants mobilisés à travers le pays. Étudiants qui disaient que le sujet n'est pas que Gaza, mais aussi le maintien de l'ordre, le racisme, le réchauffement climatique, les mots de colonialisme, d'impérialisme, d'intersectionnalité étaient prononcés. Le conflit change de nature ou c'est sa nature profonde là ?
Pour le moment, je crois, Nicolas, que c'est vraiment axé sur le conflit israélo-palestinien dans ce contexte que je viens de décrire, d'un conflit, d'une confrontation entre un monde émergent et l'Occident. Et il faut le voir dans cette optique. Ceci dit, je pense qu'on rentre là dans une saison instable. Beaucoup de ces étudiants pensent à 68, pensent à la convention démocratique de cette année d'élection 68 et veulent une répétition à Chicago, encore une fois. Et où est Norman Mailer, qu'on en a besoin de lui, qui a écrit le livre fameux là-dessus. Donc, et Trump, hier, il a essayé de profiter de la situation actuelle en disant que ceux qui protestaient étaient, je cite, des fous enragés, tandis que le président Biden a soutenu les actes de la police à New York et ailleurs pour contrôler la situation. Je suis tout à fait d'accord avec Hugo, oui, il faut absolument aux États-Unis aussi préserver les universités comme un lieu de débat fort, de liberté d'expression, etc. Il faut pas que ces lieux deviennent des endroits de peur, où les étudiants ont peur de s'exprimer.
C'est quand même fou d'entendre ça en 2024,
oui,
des universités
de chaque côté
américaines.
Il y a des choses terribles qui se passent à Gaza. Il y a eu quelque chose absolument effroyable qui a eu lieu le 7 octobre en Israël. Et ceci est un conflit depuis 75 ans qui provoque des passions que nul autre conflit provoque. Mmh. Mais il faut pouvoir en parler. Et on remarque que cet engagement intellectuel avec ce conflit n'existe pas ailleurs. Je veux dire, la Russie de Poutine, les Ouïghours, non, rien du tout. Et ces slogans dont j'ai parlé persistent partout. Or, on peut imaginer que s'il y avait un slogan, par exemple, à Columbia, « All lives matter », toutes les vies comptent, qui fait référence à Black Lives Matter, les vies des Noirs comptent, il y aurait eu une explosion de rage. Je veux dire, si on disait quelque chose contre les Noirs sur le campus de Columbia, il y aurait eu or, des slogans qui ont l'air très clairement de viser les Juifs, parfois, non. Donc, c'est une situation... on est dans un territoire intellectuel, émotionnel, différent.
Et on vous sent inquiet. Ouais. Merci en tout cas à tous les trois pour ce débat passionnant ce matin. Hugo Micheron, Roger Cohen et Anne Muxel qui étaient avec nous en duplex.